Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve François Dorcival.
Cher Thierry de Montbrial, bonjour.
Donc bonjour.
Nous allons passer ce moment ensemble avec cette émission Éclairage de l'actualité internationale que nous enregistrons ce mercredi 22 décembre. Nous voici en fin d'année. Nous avons analysé cette actualité internationale sous différents angles tout au long de cette année. Nous allons poursuivre l'année prochaine. Il y a, me semble-t-il, trois thèmes qui dominent cette fin d'année. Le premier, en réalité, n'est pas un sujet de politique internationale, mais il rebondit sur la politique internationale. Je vais parler, naturellement, du scandale des fuites WikiLeaks et de ce que cela peut ou ne pas avoir comme conséquence sur la politique internationale. Puis, je proposerai à Thierry de Montbrial que nous parlions, naturellement, de l'euro en cette fin d'année, et donc de l'euro et de la crise, de toutes les prises de position qui se sont faites autour de la monnaie unique européenne et naturellement de la Côte d'Ivoire qui nous concerne au premier chef, nous Français. Je propose peut-être que nous commencions précisément par la Côte d'Ivoire et nous irons ensuite sur l'euro et nous terminerons par l'affaire WikiLeaks. Côte d'Ivoire, le 28 novembre dernier a lieu l'élection présidentielle qui était en quelque sorte la suite, le couronnement des accords de 2003, accords qui avaient été conclus sous la présidence de Pierre Mazeaud, notre confrère, qui prévoyait cette élection présidentielle. Elle a eu lieu avec beaucoup de retard. Elle s'est tenue, à la suite de quoi a été déclaré élu par la communauté internationale Alassane Ouattara, le grand adversaire, grand concurrent de Laurent Gbagbo, qui lui-même s'est fait couronné comme président par son propre conseil constitutionnel. La question que je voulais poser est la suivante, c'est cette Côte d'Ivoire était une perle en Afrique. Elle a passé 10 années dans un désordre complet. Quel rôle la France pouvait-elle, aurait-elle dû, pourra-t-elle jouer dans ce pays ?
Ce n'est pas une question facile et je crois qu'il faut l'inscrire dans le contexte plus large qui est celui de l'évolution de l'Afrique. D'abord, il faut bien voir que nos auditeurs, nos auditrices se rendent bien compte que l'Afrique n'est plus du tout le continent perdu dont on parlait encore naguère. Aujourd'hui, c'est un continent qui se développe. Le taux de croissance en Afrique est supérieur à 5% et beaucoup d'entreprises mondiales y sont très présentes et font le pari du développement de l'Afrique. C'est le cas d'ailleurs d'un grand nombre d'entreprises françaises. Je pense par exemple à Lafarge et bien d'autres. Alors, il faut voir que l'Afrique regorge de ressources et regorge de ressources en particulier naturelles, un potentiel agricole absolument extraordinaire. Et tout cela doit être gardé en mémoire. Alors, en revanche, ce qu'il y a, c'est que l'Afrique continue, sur le plan de la gouvernance, à avoir des problèmes très graves qui affectent à tour de rôle, ou parfois simultanément, plusieurs pays. Alors, s'agissant de la Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire, c'était en effet une perle. Et si vous prenez un pays relativement voisin, qui est le Ghana, qui était d'ailleurs l'un des premiers pays à jouer la carte d'une indépendance sous la bannière marxiste ou néo-marxiste, eh bien, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on est à front renversé. C'est-à-dire que c'est le Ghana aujourd'hui qui est en train d'évoluer d'une manière, on va dire, démocratique, et la Côte d'Ivoire qui risque de sombrer dans le chaos. S'agissant de la France, je ferai deux remarques. La première, c'est que la notion d'Afrique francophone existe évidemment encore. Et d'ailleurs, on peut la situer aussi dans le cadre plus général de la francophonie, à laquelle une personnalité éminente comme Abdou Diouf aujourd'hui est extrêmement attachée et d'ailleurs se comporte d'une manière exemplaire. Donc la francophonie, l'Afrique francophone existe encore, mais il n'empêche que l'intérêt de la France aujourd'hui se porte beaucoup plus sur l'Afrique dans son ensemble. Je viens de faire allusion aux entreprises. Les entreprises françaises sont actives sur l'ensemble du continent africain. Elles font de moins en moins la distinction entre l'Afrique francophone et le reste de l'Afrique. La deuxième observation, c'est que nous avons mis d'ailleurs sous la présidence de François Mitterrand un terme, ou un terme relatif d'ailleurs, à l'approche paternaliste de la relation franco-africaine, mais je n'ai pas le sentiment qu'on l'ait remplacé par quoi que ce soit de très précis.
Et
je pense que entre la fin ou l'idée qu'on allait prendre des distances par rapport à cette politique, il faut bien le dire, un peu paternaliste, sinon néocolonialiste, en tout cas paternaliste, et l'ouverture sur l'Afrique de son ensemble, on n'a pas encore trouvé un véritable équilibre. Et je pense que cette crise de la Côte d'Ivoire doit être située dans ce cadre-là.
Et oui, on n'a pas trouvé l'équilibre nouveau, on n'a pas trouvé le moyen d'intervenir nouveau qui préserve ces pays et en même temps la qualité de nos relations. Nous avons parié en réalité sur ce que l'on appelle la communauté internationale. Alors donc, on a confié aux Nations Unies la mission de bien vouloir maintenir la paix civile en Côte d'Ivoire. Mais voilà, les Nations Unies déclaraient le résultat d'une élection. Alors que, eh bien, naturellement, il s'agit de s'ingérer dans la politique intérieure de la Côte d'Ivoire, de sorte qu'on ne peut pas dire qu'on ait ramené la sérénité dans ce pays. On a maintenu la paix, c'est vrai, avec la communauté internationale, mais on a créé un problème nouveau, c'est-à-dire quel est le rôle possible des Nations Unies dans un cas comme celui-là.
Alors, l'un de nos confrères, d'ailleurs, nous faisait récemment observer, à juste titre, que cette situation-là, c'est-à-dire une prise de position de l'ONU dans une affaire intérieure, par définition une affaire intérieure d'un État, c'est quelque chose de tout à fait sans précédent. Et je pense que c'est un tournant, parce que de deux choses l'une, ou bien ce qu'on appelle la communauté internationale l'emporte, et M. Gbagbo démissionne et cède son fauteuil à M. Ouattara, et ceci sans drame et sans guerre civile. Ou alors, M. Gbagbo parvient à s'accrocher et probablement on sombre dans une situation de crise qui peut être absolument dramatique. Je pense que selon que l'on évolue vers l'un ou l'autre cas, la communauté internationale, personnellement je mets toujours des guillemets à l'expression oui. Communauté internationale, s'en sortira différemment. Et donc, au-delà de l'affaire de la Côte d'Ivoire, je crois que ce qui est en train de se passer actuellement est un test extrêmement important pour l'avenir de la conception même de cette communauté internationale. Et finalement, derrière tout cela, il y a le problème encore plus général, mais qui est un problème qui est posé depuis longtemps et qui se posera d'ailleurs de plus en plus, qui est le problème de l'ingérence. Et si vous regardez, par exemple, la construction européenne, je pense que la construction européenne est un fantastique laboratoire de construction de nouveaux modes de gouvernance, de nouveaux types d'unités politiques. Mais dans la construction européenne, le choix, mais ça c'est un choix qu'ont fait ses membres, plus ou moins explicitement, le choix est celui de la souveraineté partagée.
C'est ça.
Et dans le cas d'une souveraineté explicitement partagée,
oui.
Chacun a un certain droit de regard sur les affaires intérieures des autres, et inversement, par conséquent, il y a un certain équilibre. Alors que s'agissant de la communauté internationale, toujours avec les guillemets dans son ensemble, nous n'en sommes absolument pas encore à ce stade de développement. Donc ce qui se passe actuellement, au-delà, je le répète, du problème de la Côte d'Ivoire en tant qu'État, c'est un problème dont la portée est beaucoup plus large. Et dernière remarque, si vous le permettez, je pense aussi au Kenya, puisqu'il y a 2 ans, nous avons eu une situation à certains égards comparable de contestation des élections, des résultats des élections présidentielles. Et finalement, grâce d'ailleurs en particulier à certaines bonnes volontés extérieures, je pense à Kofi Annan, les deux principaux protagonistes ont trouvé une sorte d'équilibre, l'un restant président et l'autre devenant Premier ministre. Et ça tient plus ou moins d'ailleurs depuis. Alors, va-t-on vers un scénario de ce genre ? J'ai du mal à le croire, étant donné que tout de même les positions actuellement sont extrêmement cristallisées et figées. J'avoue que j'ai du mal à imaginer M. Gbagbo rentrant dans un véritable exercice de partage de pouvoir avec M. Ouattara.
Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous ne savons pas, ni vous ni personne, ce que sera le crédit de la fameuse communauté internationale, entre guillemets, à l'issue de cette crise. Mais de toute façon, il y aura bien un arbitre là-dedans, c'est-à-dire
Il peut y avoir un arbitre ou une situation qui dégénère. Et selon, effectivement, que la communauté internationale l'emporte ou perd, on aura, je le répète, des situations extrêmement différentes.
Autre sujet donc, celui de l'euro. Il se trouve que la zone euro va accueillir, à partir du mois de janvier, l'Estonie, donc un nouveau membre. Cette zone euro va donc passer à 17 membres. En même temps, d'autres patientent naturellement, mais surtout à l'intérieur, cette zone euro a été toute l'année 2010 secouée par de très fortes turbulences venant d'abord de la Grèce, puis de l'Irlande, du Portugal et, à moindre degré, de l'Espagne. Incontestablement, il y a aujourd'hui un débat sur ce que nous a apporté l'euro depuis qu'il a été instauré il y a 10 ans, ce qu'il nous a apporté en termes de croissance, de stabilité, de maîtrise des prix, etc., et également ce qu'il a pu coûter dans les mêmes termes. Je crois l'opinion française partagée sur ce point, mais il ne s'agit pas d'un problème qui soit celui de l'opinion française, il s'agit de l'avenir de cette monnaie unique. Et je serais intéressé de voir quel est le regard que vous portez aujourd'hui, à la fois sur ces turbulences et sur ce qu'il peut arriver.
Alors d'abord, je vais peut-être prendre le problème d'abord par faut-il maintenir l'euro ou pas, puisque la question est aujourd'hui posée. Il est bon de raisonner par l'absurde, c'est-à-dire de se poser la question que se passerait-il si nous retournions en tout ou en partie à des monnaies nationales. Et je me pose la question en mettant de côté les coûts de transition qui seraient énormes, parce que les coûts de transition, c'est-à-dire défaire l'euro, détricoter l'euro, impliquerait d'innombrables problèmes techniques qui auraient des incidences financières. Je ne parle pas de ça, donc je suppose que le détricotage est fait. Qu'est-ce qui se passerait ? Qui peut imaginer sérieusement un instant que la situation des pays européens s'en trouverait améliorée ? Parce qu'à ce moment-là, nous aurions, disons, les turbulences générales du monde. Parce qu'il faut bien voir que la crise de la Grèce, etc., tout ça est aussi lié à une chaîne d'événements qui nous ramène au monde ensemble. Les turbulences générales du monde n'affecteraient pas moins l'Europe. Et nous aurions, les problèmes de l'Europe seraient encore démultipliés par des crises monétaires entre pays européens, ce que nous avons connu dans le passé et que nous avons complètement oublié. Et nous verrions tous les spéculateurs du monde entier qui se mettraient donc à jouer marque contre le franc contre la lire ou la lire contre le franc et ainsi de suite. Et donc on se trouverait, je crois, dans un maelstrom absolument épouvantable. D'autre part, est-ce qu'on peut imaginer un instant que des pays ayant recouvré leur indépendance monétaire seraient pour autant soustraits aux disciplines ? Absolument pas, parce qu'ils seraient, pour pouvoir retrouver une certaine autonomie, leur capacité d'emprunt, etc., ils devraient également en passer par des pilules extrêmement amères, comme ça a été le cas de tous les pays qui, à travers les décennies, ont subi des crises analogues. Et donc, la Grèce n'en serait pas moins soumise à des cures d'austérité. Et, dernier point, l'Allemagne ou la France ou pays qui, dans l'hypothèse où je me place, donc aurait quitté l'euro, n'en serait pas moins obligé de se solidariser un minimum avec ces autres pays, parce que, prenez par exemple l'Allemagne, qui, comme chacun sait, dépend énormément pour sa croissance économique des exportations, ben, si les pays auxquels elle exporte se trouvent eux-mêmes dans une situation économique difficile, elle en subit les conséquences par effet boomerang. Donc je pense que non seulement les problèmes fondamentaux ne seraient pas changés, mais il y en aurait d'autres qui se superposeraient. Alors, ça c'est le premier point. Deuxième point, bon, cette crise de l'euro, elle existe. Et à quoi tient-elle fondamentalement et que faut-il faire pour y remédier ? Eh bien là, nous savons, les économistes savaient parfaitement, tous ceux qui ont réfléchi à la notion de zone monétaire optimale le savaient depuis le début, que pour qu'une zone monétaire puisse fonctionner harmonieusement, un certain nombre de conditions doivent être remplies qui ne l'étaient pas et qui ne l'ont pas été jusqu'à présent. Et pour faire court, nous sommes dans une zone où, par exemple, la mobilité du travail est extrêmement limitée. C'est une grande différence avec les États-Unis, par exemple. Si vous êtes en chômage en Californie, si vous avez une opportunité de travail au Texas, eh bien, vous n'allez... la plupart des gens ne vont pas hésiter.
Ce sont tous des Américains.
Ce sont tous des Américains et ils bougent. Donc, et nous, on ne va pas aller de la Pologne à la France. Je fais un petit clin d'œil
au plombier. Bon.
Surtout de la France à la Pologne. Oui. Par conséquent, je crois qu'il y a un certain nombre de conditions qui doivent être remplies. Et ça, c'est le problème de la gouvernance économique européenne, problème qui est posé depuis le début, mais qu'on n'a pas voulu prendre sérieusement parce que ça bousculait un peu. Et là, évidemment, on se trouve dans la situation classique de la construction européenne, c'est-à-dire qu'on va être obligé de traiter le problème à chaud. Voilà. Et je pense, parce que je crois fondamentalement que la construction européenne est bénéfique à l'ensemble des membres de l'Union, et là, ça ramène au point précédent, que nous allons être obligés de mettre en place cette fameuse gouvernance européenne. Et un codicille au aussi que j'aimerais rajouter, et Jean-Claude Trichet, notre confrère Jean-Claude Trichet, ne manque pas aussi l'occasion de le rappeler, c'est que nous avons tous, autant que nous sommes, y compris l'Allemagne et la France, jeté par-dessus bord les critères de Maastricht. Or, les critères de Maastricht, c'était quand même des garde-fous qui étaient extrêmement importants, parce qu'en définitive, l'origine des difficultés, c'est la perte de la maîtrise des finances publiques.
Et il faut se rappeler que c'est l'Allemagne qui a décidé la première de s'en libérer.
Exactement. Par conséquent, tout le monde est coupable de ce point de vue-là.
Alors enfin, cet extraordinaire ouragan, si l'on peut dire, médiatique, puisqu'il n'est que médiatique, mais qui tout de même porte sur la diplomatie avec ses très nombreuses fuites publiées dans les grands journaux du monde entier, à partir donc des télégrammes américains qui avaient été en quelque sorte enregistrés et mis de côté par, si j'ai bien compris d'ailleurs, un soldat américain qui n'avait pas grand-chose à faire, mais qui a réussi à pénétrer dans le système du chiffrage de la diplomatie américaine. Et voilà donc tous ces télégrammes publiés. Bien. La question qui se pose commence par une remarque. On a le sentiment qu'on ne découvre pas à la lecture de ces documents de choses tout à fait exceptionnelles qui viendraient démentir ce qui se passe dans la diplomatie mondiale et la politique des États telle que nous l'avons comprise et analysée. À côté de cela, il faut bien se dire qu'une diplomatie peut-elle se passer de secrets ? Or, il se trouve qu'aujourd'hui, les événements auxquels nous avons à faire face, occidentaux ou autres, et en particulier donc les Américains, puisque ce sont eux qui sont en cause, n'imposent pas de secrets comme il y en a eu la nécessité lorsqu'il s'agissait de la guerre du Vietnam, de la guerre froide, du mur de Berlin et autres. Et donc, sur le fond, peut-on, en diplomatie, en politique étrangère, se passer de secrets ?
Tout d'abord, je crois que la question que vous posez, c'est peut-on dans la vie se passer de secrets ? Je crois qu'il y a un mythe général de la transparence qui est un mythe. Et la question, évidemment, est infiniment plus complexe que cela. Je crois bien davantage aux règles du jeu, au respect de règles du jeu, mais s'appuyer sur des postulats comme seule la transparence générale est bonne est une erreur profonde à tous les niveaux, d'ailleurs, de la vie, qu'elle soit privée ou publique. Alors, s'agissant de Wikifuite, je dis Wikifuite
oui.
parce qu'en pensant à une réunion que j'ai organisée récemment sur des questions de francophonie. Alors, en pensant à Wikifuite ou Wikileaks, je crois tout d'abord, comme vous l'avez parfaitement dit, qu'on ne voit pas dans ces télégrammes, pour les gens en tout cas un peu expérimentés, des choses si extraordinaires que ça. Bon, dans certains cas, c'est des noms cités, etc. Mais on a évidemment l'impression que les télégrammes les plus classifiés, les plus secrets, n'ont pas été encore décrypté et saisi par le système Wikileaks. Ça pourra peut-être se produire, mais en tout cas, je crois que ça ne l'a pas encore été. Bon. Alors, de ce point de vue-là, je pense que les dégâts sont tout de même relativement limités et très franchement, je n'ai, en ce qui me concerne, dans ce que j'ai pu lire, en tout cas, rien appris qui ait bouleversé les conceptions que je pouvais me faire des relations internationales actuelles.
J'ajouterai, petite parenthèse, que si on lit convenablement le Ramsès publié par l'IFRI tous les ans, d'une manière générale, on anticipait tout ce qu'il y avait dans Wikileaks.
Mon cher confrère, je vous remercie très vivement de cette appréciation et j'ajouterai que nous n'avons jamais cherché à crypter Ramsès. Bien que ça s'appelle Ramsès, on aurait pu l'écrire en hiéroglyphe, etc.
Oui, tout à fait.
Alors, ceci étant dit, effectivement, la question que vous posez n'en reste pas moins fondamentale. Et je pense que ceux qui se félicitent de ces fuites au nom justement de principes abstraits et à mon sens complètement faux, comme l'apologie de la transparence, etc., vont avoir le résultat inverse. Car comment peut-on imaginer les conséquences à court terme, tout au moins à court-moyen terme ? Alors sur le moyen, c'est-à-dire je crois qu'on va dire même court, moyen et long terme. Les premières conséquences, ça va être que évidemment tout le monde va se méfier infiniment. Donc les ambassadeurs, les diplomates vont être extrêmement, beaucoup plus prudents dans l'envoi de leur correspondance diplomatique. Les personnes qui parlent aux diplomates vont être beaucoup plus prudents parce qu'ils n'auront pas envie de voir leur nom sorti comme ça sur la place publique, etc., etc. Alors ça, c'est pour le court terme. Et donc, il va falloir chercher à réinventer des modes plus secrets. On peut même imaginer qu'on en retourne à certaines formes de transport physique, si vous voulez, des correspondances pour minimiser les risques. Et puis, naturellement, sur le moyen et le long terme, on va chercher des parades technologiques. Et ceci fait d'ailleurs partie de la problématique de la cyberguerre, d'une manière générale, et donc une nouvelle forme, disons, de dialectique entre l'abus et la cuirasse. Donc, c'est vers ça qu'on se dirige. Donc, il va y avoir toute une série de conséquences à court, moyen et long terme. Mais en tout cas, je le répète, ceux qui s'imaginaient qu'il y avait une grande victoire pour la démocratie parce qu'ils s'imaginent que cette transparence absolue fait partie de la démocratie vont en être pour leurs frais. Voilà, je crois, ce qu'on peut dire actuellement dans cette affaire. Et j'ajouterais qu'il va y avoir sans doute aussi des conséquences sur le plan juridique, par exemple, parce qu'on s'aperçoit bien dans les controverses actuelles qu'il y a des trous juridiques dans cette affaire. Donc, ceci va amener, va conduire aussi à conforter la construction du droit dans ces domaines. Et ce sont des sujets qui sont d'ailleurs connectés, qui ne sont pas identiques, mais à toutes ces grandes problématiques de la propriété intellectuelle, etc., etc. Donc, cette affaire Wikileaks est en effet porteuse de conséquences lourdes, mais pas nécessairement dans le sens qu'on croyait.
Cher Thierry de Montbrial, merci. Merci de ce...
Merci.
De cet éclairage, de cette revue des événements internationaux. Nous, nous allons nous retrouver donc en début d'année et nous souhaitons à nos auditeurs tous nos vœux pour l'année 2011.
Voilà, nous le souhaitons à tous nos auditeurs et, cher François, à nous-mêmes.
Merci.